direct de la Maison de la Radio. Heureuse d'ouvrir cette nouvelle semaine en compagnie de Benjamin Hu à la réalisation, d'Oriane Delacroix et Henri Leblanc à la programmation, de Laura Dutèche-Pérez à la préparation avec Philomène Villard et Marceau Vassy. Merci aux techniciens du CDM et de France Culture, Élise-le, aujourd'hui, de créer tous les jours ce lien entre nous, nos invités, le studio, surtout, et vous. Bonjour à tous. Et une très belle nouvelle à vous annoncer, c'est la reprise ce mercredi du journal de Midi et demi de Thomas Cluzel. Et dans son prolongement, le déconfinement total de la grande table avec le retour des idées et un grand invité, l'anthropologue Didier Fassin. En attendant, la grande table culture, déjà jusqu'à midi et demi, après la littérature étrangère, le cinéma, les musées et leurs artistes, nous consacrons cette nouvelle semaine à la littérature française. Et pour ouvrir le bal, un inclassable, un touche-à-tout hyperactif qui s'offre un déconfinement en quatre actualités, c'est Joanne Sfar, notre invité.
La grande table. Olivia Gesbert.
Dessinateur, auteur, scénariste, réalisateur, Le chat du rabbin, Petit vampire, Aspirine, Gainsbourg, Vire et Roïc. C'est tout ça, à la fois, pour lui, à la fois de l'écriture, du dessin, mais aussi du cinéma. Un roman, d'ores et déjà sélectionné pour le Renaudot 2020, Le dernier juif d'Europe, paru chez Albin Michel. Une BD, Le Niçois, Fashion Week, chez Dargo. Petit vampire, version cinéma, adaptation de sa BD éponyme. Un film d'animation en compétition officielle pour l'édition virtuelle du Festival d'Annecy, qui débutera le 15 juin, sorti bien plus tard en salle de ce nouveau film, annoncé pour le 21 octobre. Mais on a quand même envie d'en parler, parce que Petit vampire est un héros qu'on a toujours eu plaisir à suivre. Bonjour. Bonjour Joanne Sfar.
Bonjour.
Il y a une quatrième actualité durant ce confinement ou juste avant. Vous n'avez pas seulement accouché d'un roman, d'un BD, d'un film, mais aussi...
Ah oui, j'ai un nourrisson. Et enfin, en temps normal, c'est une excellente nouvelle, mais j'ai un nourrisson et un chien et on fait une interview et j'espère vraiment que ça va bien se passer.
Il arrive au monde dans une période quand même sacrément particulière, ce petit. Vous, comme père, vous vous demandez souvent dans quel monde il va grandir ?
Pas comme ça. Vous savez, il y a un passage biblique où Pharaon veut se débarrasser de tous les premiers-nés mâles et les parents de Moïse les parents de Moïse veulent pas faire d'enfants du tout et la maman dit tu condamnes aussi les femelles. Donc moi je crois qu'il faut toujours faire des enfants, c'est toujours une bonne nouvelle. J'adore l'apocalypse, je crois qu'elle est permanente. Enfin, moi j'ai toujours vécu des moments d'apocalypse.
Dans Mort vivant, mon mot favori c'est vivant. Ça c'est Jonas, l'un des personnages de votre nouveau roman. Le dernier juif d'Europe qui le dit. Vous êtes comme lui, vous êtes une sorte de pessimiste joyeux qui voyait plutôt la vie que la mort dans le mort-vivant. Vous croyez que cette crise notamment ouvrira sur de nouveaux possibles qui sont peut-être plus positifs ?
Non, il y a une permanence tragique. Il y a une permanence tragique. Brassens disait « Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps ». Donc les phénomènes, le flot des événements, on a envie de se crever les yeux tellement c'est triste. Cependant, on peut chanter. Donc Clément Rosset, il disait « La joie est indépendante du phénomène ». Moi, je crois beaucoup à ça. Après, il y a une telle accélération des drames que notre cerveau n'arrive plus à les analyser. Donc on est en tachycardie cérébrale. C'est ça que j'ai appelé le Monster World. Et je m'aperçois que de Petit Vampire au Dernier Juif d'Europe, ce sont les mêmes morts-vivants qui reviennent et qui arrivent, qui sont pas forcément négatifs, qui sont parfois des présences au contraire assez rassurantes ou qui partagent notre désolation. Et j'espère que ça fait marrer parfois.
Clément Rosset, il avait aussi une définition du bonheur et surtout une loi pour ne pas passer à côté. On l'écoute.
Une condition habituelle, peut-être une condition sine qua non, une condition nécessaire du bonheur, me paraît consister en un certain oubli de soi, c'est-à-dire le fait de ne pas prêter d'attention à son propre cas, à sa propre vie, à sa propre valeur. Non seulement ne pas accorder d'importance à ce qui vous arrive d'agréable, de flatteur, mais surtout de ne pas accorder d'importance à ce qui peut vous arriver d'humiliant, eh bien, se moquer de cela, de l'accepter, de l'assumer, mais n'avoir même pas besoin de l'assumer dans la mesure où vous êtes muni d'un plaisir de vivre qui vous dispense de vous intéresser à votre propre sort exact, hein. Eh bien, il me semble que c'est un petit peu la loi du bonheur. Et je la résume, cette loi du bonheur, ne jamais penser à soi.
Et vous, votre loi du bonheur, Joanne Sfar, vous la résumez comment ?
Là, vous me faites plaisir. Il a raison parce que un personnage de fiction, ça sert pas à s'exprimer. Ça sert à se débarrasser du cadavre. Ça sert à faire parler d'autres voix. Tout ce monde de la représentation, il a ceci de merveilleux qui nous rend mieux que nous-mêmes. Moi, je m'intéresse davantage aux actions de mes personnages qu'à mes motivations personnelles qui sont assez indigentes souvent.
Quelle est votre définition à vous d'un monde monstrueux ?
Non, ce que j'ai appelé le Monster World, c'est l'inverse de tous les récits de science-fiction habituels, c'est-à-dire que les cataclysmes nous tombent dessus, et nous, on fait du yoga, on fait du pain. Je pouvais pas prévoir le coronavirus, je racontais d'autres trucs dans mon Monster World, dans le dernier Juif d'Europe. Mais c'est le moment où il y en a tellement qu'on ne voit même plus le monstrueux. Dans le contexte actuel, on verrait débarquer des vampires et des zombies. Ça ferait 2 semaines sur BFM, mais ça changerait rien. Et là, on a acquis la conviction que même face à l'apocalypse, on continue comme on a dit. Et je trouve ça... La part citoyenne, ça peut l'attrister chez moi, mais la part dramaturge, ça la fait marrer. Je peux pas m'empêcher de me dire, j'espère que jusqu'à la porte du tombeau, je me dirai, attends, c'est marrant à raconter. Et c'est pas du courage, hein, c'est de la jubilation. Moi, je me suis marré dans les trucs que j'ai entendus pendant le confinement avec comme dans Tintin, là, les gens qui viennent expliquer tous les matins que ça va changer la vie, qu'il va falloir faire ceci, cela. C'est marrant quand même.
Vous y croyez pas trop?
Non, pas du tout. Pas du tout. Pardon, c'est provocant, mais c'est les mêmes gens qui espéraient qu'il y avait de l'espoir avec le maréchal Pétain. Moi, dès que les gens ont de l'espoir, je me méfie. Je fais pas exprès, hein, que ce soit Napoléon ou autre chose. Et il y a des gens qui se sont imaginés que ce virus était un sauveur et que soudain, la planète se défendait, que ceci, que cela. Mais enfin, il y a eu des grandes pestes pendant toute l'histoire de l'humanité. Et à chaque fois qu'il y a eu une grande peste, il y a eu des abrutis pour expliquer, attention, croyez à ma doctrine. Donc moi, je raconte des histoires.
Ça nous a pas rendu plus résilients, en tout cas, pour reprendre le terme qui est en
vogue. Non, mais on n'est pas solide. Ouais. Non, parce que résilient, c'est pour faire croire qu'on est solide. Moi, je crois pas qu'on soit solide. Je crois qu'on est tous, veules, fragiles, on se contredit, on dit n'importe quoi. Et c'est pour ça que le théâtre est important. Raconter des histoires, c'est pas pour défendre une cause, c'est pour expliquer à quel point on est anxieux, à quel point on est paumé.
Alors, qu'est-ce qui va nous sauver?
Mais on est sauvé tous les jours. Enfin, on n'a pas de. Moi, j'attends pas de rédemption. Je sais comment on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le truc qui va nous tomber dessus? Moi, je suis curieux. Je trouve ça vraiment. Enfin, pour quelqu'un qui raconte des histoires, c'est extrêmement amusant. Après, il y a les morts, c'est très grave. Mais bon, mais il y a des morts tout le temps. On meurt tout le temps.
Dans cette période, vous avez quand même choisi d'offrir, par exemple, les cases, les planches, les dessins de votre nouvel album d'Aspirine en ligne sur votre compte Instagram. Vous avez aussi lancé en mars une sorte de journal de bord participatif où les dessinateurs pouvaient poster leur vision du confinement. Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre en partage dans ces moments-là ?
Ce ne sont pas les dessinateurs au sens large, ce sont mes élèves des Beaux-Arts de Paris. Alors j'espère que ça ne va pas leur déplaire d'entendre ça, mais ils n'ont jamais autant dessiné que pendant le confinement. J'ai pu obtenir, enfin, ils l'ont fait spontanément, ils n'avaient pas besoin de moi. Hein. Ils se sont mis à faire des bandes dessinées formidables, à les poster tous les jours, et tant mieux. Et ensuite, de mon côté, j'ai fait un feuilleton en bande dessinée, parce que il y a toujours eu des bandes dessinées pendant les périodes de drame. Pendant la guerre, les Américains faisaient des super-héros qui allaient casser la figure aux nazis, tout ça. Donc là, j'ai mis des vampires sur la traque du virus. C'est débile, hein, ça n'a pas de sens, mais j'aime bien en poster tous les jours. Et comme il n'y avait aucun imprimeur capable de sortir une BD, ben, on l'a mise sur Instagram. Puis je continue à être confiné et à mettre... Je suis le mec qui ne sait pas que Paris a été libéré, donc il continue à être dans sa cave, quoi.
Le dernier dessin, c'était quoi ?
Il y en a plein, là. Elle est prisonnière, ma vampire, la Aspirine, elle est prisonnière par un type qui ressemble à Lovecraft et qui se fait appeler Providence. Et il a drogué des étudiants pour qu'il l'aide. Parce qu'en fait, vous allez découvrir qu'il est à la recherche du vaccin contre le coronavirus et il s'aperçoit qu'un vampire, on peut le piquer plein de fois, il meurt pas. Donc on peut tester plein de trucs sur un vampire.
À suivre et merci pour la recommandation. On saura que les vampires seront nos cobayes du futur, ça changera un peu des chauves-souris, quoi qu'ils en ont quelques traits communs. Le dernier Juif d'Europe, c'est votre roman sorti en mars, confiné dans les librairies, mais ça y est. Là, elles aussi, les librairies, elles ont été déconfinées et on peut aujourd'hui le trouver. Il est publié chez Albin Michel. Ces pages racontent aussi comment mon père a tenté de ne plus être juif, écrivez-vous, et comment, avec tout ce que l'on me mettait sur le dos, j'ai eu le sentiment d'être le dernier juif d'Europe. Alors c'est l'histoire de Désiré, un vieux juif français qui aimerait ne plus être juif. Il entraîne dans l'aventure son fils François, qui est vétérinaire, acteur de la sensiblerie, écrivez-vous. Et parallèlement, il y a Jonas, figure qu'on a déjà évoquée, qui est un vampire mort il y a plus d'un siècle, qui est déjà un des personnages de l'un de vos précédents romans, L'Éternel, et qui revient, lui, sur sa relation avec Rebecca, qui est une psy pour monstre, relation à la fois sexuelle et psychanalytique. Et le problème, c'est que dans ce monde où on pense avoir trouvé des repères, une bête immonde rôde et menace. Et Jonas et ses amis, un certain nombre de personnages attachants, émotifs et pénibles, tels que vous les décrivez, Johann Sfar, comme Rougarou, Miss Jekyll ou encore la femme rabbine, vont se lancer à la poursuite de cette bête immonde. Elle ressemble à quoi, cette bête ?
C'est un récit d'exorcisme quand on essaie de se... Moi, je réveille le diable en ce moment parce qu'il y a je crois qu'on est au Moyen-Âge. Quand des haines raciales se réveillent, donc dans mon livre, c'est la haine des Juifs. En ce moment, aux États-Unis, c'est la haine des Noirs. Je crois que les haines sont des démons très différents les unes des autres et on les combat chacun ou chacune d'une manière différente. Donc là, cette haine anti-juive qui s'est réveillée dans mon récit de fiction, elle est très optimiste par rapport au vrai monde parce que dans mon récit, on parvient à l'exorciser au bout d'un moment. Dans le vrai monde, c'est un peu plus difficile. Mais oui, j'aime bien donner des visages aux maladies mentales et le racisme est une maladie mentale, la haine des Juifs est une maladie mentale. Et ce sont, pourquoi c'est monstrueux, pourquoi c'est diabolique? Parce que ce sont des comportements hérités de générations très anciennes et on sait parfois même pas pourquoi on déteste tel groupe humain ou pourquoi on a des préjugés. Donc moi, j'essaie de pas prôner la bonne parole, de pas prôner le bien, j'essaie de montrer de la manière la plus choquante, provocante, rigolote possible comment on pourrait se débarrasser de ce diable, comment on pourrait le combattre. Et mon héros, c'est un vieux juif qui s'est fait remettre le prépuce. Mmh. Et maintenant qu'il s'est fait remettre le prépuce, il se dit « chouette, je vais pouvoir enfin être antisémite ». Et bon, on le suit au quotidien avec son fils qui se retrouve à être le dernier juif de la famille puisque son père n'est plus juif. Donc voilà.
Et vous écrivez dans une langue assez fantaisiste, assez cache, assez grinçante aussi. Une plume à l'oreille totalement libérée. Vous dites que souvent vous n'écrivez pas pour cerner l'époque. En tout cas, vous ne dessinez pas pour cerner l'époque. Mais dans cette traque, ou derrière cette fuite, derrière ces maxi-monstres et tout le surnaturel que vous dessinez, il y a quand même des figures bien réelles. Il y a aussi une angoisse bien contemporaine, Johann Sfar.
Oui, l'époque, je sais pas. Le lieu, oui, en tout cas. Renoir disait qu'un film a la nationalité du lieu où on l'a tourné. Je crois qu'un roman aussi. Moi qui suis niçois du plus profond de mon corps, là, c'est parisien. Là, c'est un récit parisien. On arpente Paris avec ce qui peut avoir de désespérant les jours d'émeute. Et j'ai voulu raconter aussi un peu la terreur du monarque. On voit un président qui a un petit peu peur. On voit des choses comme ça. Donc non, mais c'est bizarre parce que plus j'écris des horreurs, plus je le fais avec légèreté et plus je pose la plume avec un grand sourire le soir. Donc je crois qu'il y a une espèce de sadisme de ma part à vouloir partager mes angoisses avec le lecteur.
Ça commence un peu sur le fond comme du Kafka, façon La Métamorphose, ça se termine comme Le Parfum de Suskind. On sent aussi tout ce plaisir à s'inscrire dans ces mythes ou cette pensée littéraire, dans cette vision du monde catastrophiste que certains peuvent avoir, avec toujours des ficelles qu'on peut tirer en analysant nos croyances collectives pour retrouver des manières d'espérer. Les gens ont besoin de se représenter le monde comme une mauvaise blague de fin de repas, écrivez-vous, avec des juifs qui vivent à Neuilly et fument des cigares, des noirs anthropophages et des arabes qui ne poussent pas assez vite la brouette du chantier ou qui rachètent le PSG. L'absurdité, la mauvaise foi, de ceux qui sont antisémites et qui le sont souvent sans vouloir l'avouer. On n'est pas antisémite, on veut juste que les juifs crèvent, rappelez-vous, à travers cette horde déchaînée à la fin du roman qui scande ces mots-là en cœur. Vous piquez nos travers.
Non, dans ce qu'ils disent, dans leur slogan, c'est « sale juif, nous ne sommes pas antisémites ».
Oui, c'est ça. C'est vraiment cette idée...
Non, ce que j'essaye de dire, c'est que la littérature de bon goût ne peut pas se battre face au vomi quotidien de tout ce qu'on reçoit. Il faut ressusciter la littérature tragicomique, qu'elle vienne de chez Rabelais ou qu'elle vienne de chez les romanciers juifs américains. Cette littérature qui a pas peur de se salir les mains, qui a pas peur d'aller dans l'effrayant, dans le monstrueux, dans le grotesque, parce que l'époque appelle ça. Je crois pas qu'on puisse, avec délicatesse, décrire ce qu'on se mange tous les jours. Faut que la littérature ait le goût de ce que la vie nous fait bouffer tous les jours en ce moment. Et en ce moment, il faut un appétit pour le dégueulasse, parce que sinon on mange rien.
c'est ce livre que vous avez choisi de publier en parallèle d'une bande dessinée, Le Niçois Fashion Week. Là aussi, vous avez repris un projet que vous aviez déjà entamé. On va voir si, avec cette bande dessinée, c'est un autre registre que vous avez choisi. Mais je vous propose d'abord d'écouter une nouveauté musicale. Ça s'appelle Mon Dernier Voyage. Je vous en dis plus dans quelques instants. Il est midi et quart sur France Culture.
Je me souviens d'une saison passée au ciel, à étudier le fonctionnement de ton plus simple appareil. Puis tu t'es croisé avec je sais pas qui, mais les vacances étaient finies, ouais. J'imagine mon dernier voyage, bercé par le chant des sirènes de la police. Toi et ton Léonard Cohen, un seul père, tous ses fils. Mais il paraît qu'il y en a qu'un problème avec les juifs. Viendra et elle viendra de l'ombre, tu sais. Vois la France entière téléguidée par les ondes. Mais pleure sous la pluie, pleure sous les gaz. C'est un trou de verdure où chante une rivière de larmes. Je me souviens le soleil, le diable et la plage. Et toi, la dormeuse du Valhalla. À quoi tu voulais que je te dise la messe? Comme je te disais dans mon dernier SMS, va pas croire que je suis le genre de gars qui se barre et s'en bat les couilles. Je repasserai peut-être un soir prendre des nouvelles de ton boule. Depuis des années à pleurer dans ton lit, personne pour te voir. Mais rassure-toi, tant qu'il y a du réseau, il y a de l'espoir. Mais plus rien ne veut plus rien dire et l'horizon qui flambe. Avec ce qui nous reste à vivre, autant prendre ce qu'il y a à prendre. J'avoue, je donnerais ma vie pour un tour dans ton jean. Jean 11, 35, Jésus pleura. Mais ce qui est...
L'auteur, compositeur et interprète Thousand, il est parisien, il est passé par le Texas, il a commencé très jeune la batterie et il s'est mis à chanter sur ce quatrième et nouvel album, Au Paradis, à paraître vendredi prochain sur le label Talitre, Mon Dernier Voyage. C'est l'extrait de cet album qu'on vient d'entendre. Stéphane Milošević, dialoguiste, acteur aussi à l'écran sur... dans certains films de Christophe Honoré. C'est une nouveauté et on vous l'a fait découvrir.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Avec notre invité Johan Sfar jusqu'à midi et demi pour ouvrir cette semaine de la petite grande table consacrée à la littérature française. De Nice à Paris, Fashion Week rassemble des truands old school, des filles sexy, le milieu de la mode, celui des apparences et celui de l'argent. Jacques Le Niçois et sa belle Loulou Cristal se voient proposer un contrat, détrousser une certaine Kim Kestechian, si je prononce bien Johan Sfar.
Oui.
Oui, hein, pendant l'effervescence de la semaine de la mode, la Fashion Week. Vous vous êtes inspiré bien sûr d'un fait divers, comme les polars de Frédéric Dard que vous affectionnez. Là, c'est le vrai braquage de Kim Kardashian. Pourquoi ? Pourquoi cette affaire vous a fait sourire et que vous avez eu envie de l'inscrire dans les aventures qui avaient commencé bien avant de Jacques Le Niçois ?
Oh, ça, il m'a semblé que c'était une histoire importante. D'abord, il faut que Kim Kardashian se fasse cambrioler pour que le monde entier parle de Paris, parce que sinon on est devenu une sous-préfecture, mais ça nous donne de l'importance. Et puis, dans le rapport au personnage masculin, au personnage féminin, ça me paraissait intéressant de voir cette femme si puissante qui est soudain en situation de faiblesse. voir le monde entier qui ricane sur cette situation qui, moi, me fait pas rire du tout. En revanche, ce qui me fait rire, c'est l'impuissance et la maladresse des cambrioleurs que j'ai réinventé parce que je voulais pas rester dans le fait réel. Je voulais être, j'allais dire, dans la parole scientifique. Je voulais montrer le crépuscule de tous ces personnages qu'on a vus dans les Tontons Flingueurs et qui aujourd'hui, peuvent créer autre chose que du rire. Donc voilà.
Parce que c'était une bande de papis braqueurs hein, qui ont quand même bien réalisé le braquage, mais qui se sont avérés, révélés aussi un peu bracassés dans la fuite. Hein.
Les vrais, oui. Mais en même temps, je ne les connais pas, les vrais. Moi, j'ai utilisé ce personnage du Niçois auquel j'ai déjà consacré deux romans. Et c'est toujours le même principe. Je pars d'un événement du vrai monde. Donc, ça a été d'abord les élections à Nice, ensuite l'attentat à Nice, maintenant le cambriolage de Kim Kardashian. Et après m'être documenté, j'oublie toute la documentation et je raconte une fiction. Donc là, j'ai raconté ce cambriolage dans Paris et je me suis arrangé pour donner le beau rôle au personnage féminin, en particulier Loulou Cristal, qui est une espèce de nana qui a beaucoup plus lu Virginie Despentes que Frédéric Dard et qui vient prendre le pouvoir sur ces personnages-là. Quoi.
Comment le Niçois peut être deux fois roman et une fois bande dessinée, roman graphique ?
Parce que je me suis mis à dessiner des bons hommes et que c'était très compliqué de remettre dans la collection de romans un livre qui tout d'un coup était plein de petits dessins. Donc on le sort chez Dargo. Ça veut pas dire que je vais pas refaire un roman du Niçois après. Je suis pas très organisé comme garçon. Quand je commence sous un format, je finis comme ça. Mais c'est vrai que ça aurait sans doute été plus constructif d'en faire un roman. D'ailleurs, c'est tellement plein de textes que je crois que ça se lit un peu comme un roman. Mais je suis pas très organisé.
C'est vrai que c'est très bavard et en même temps, ouais. C'est une bande dessinée avec quelque chose qu'on voit pas forcément très souvent sur vos planches, Johann Sfar, c'est l'utilisation de l'aquarelle. Magnifique aquarelle, très très douce dans les orangés, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes que vous avez pu utiliser. On est vraiment dans du ocre tout au long. Pourquoi ce choix pour ce Niçois ?
Je le fais si peu parce que ça marche pas. C'est fait pour des dessins uniques, l'aquarelle. Par exemple, les dessins que je fais dans Paris Match, ce sont des aquarelles. Quand on en met plein dans une page, ça danse un peu. Donc je l'ai fait dans Klezmer, une bande dessinée il y a quelques années. Et je l'avais fait sur Gainsbourg, sur le livre de Gainsbourg. Et là, je tente à nouveau. Je continue de pas être très satisfait. Je continue de me dire que les couleurs du Chat du Rabbin, c'est plus posé. Mais là, comme ça court partout, il me semblait que l'aquarelle, ça tombait bien. Et ça a évité aussi, comme la BD est très crue, comme les mots sont très crus, ça m'a évité d'être trop précis dans des représentations qui seraient peut-être un peu trop crues par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que je suis un gros romantique quand même.
Ça permet de déborder aussi un peu. Ça permet une sorte de flou aussi.
Oui, c'est vivant. C'est comme si les personnages étaient devant moi. J'ai envie de faire comme si c'était une BD faite d'après nature. D'ailleurs, j'ai fait poser des gens pour cette bande dessinée. Donc voilà, j'ai envie que ça ait été fait. J'ai envie qu'on croie que c'est fait d'après nature.
Il y a un film à venir aussi. Ces petits vampires, je l'évoquais, Johann Sfar. Vous espérez, on l'imagine, qu'à l'automne prochain, votre film pourra être vu en salle. Qu'est-ce qu'il représente, ce petit vampire, dans votre galaxie imaginaire à vous ? Quelle place il a ?
C'est un des personnages qui m'a fait éclore. C'est un souvenir d'enfance aussi. Quand j'étais gamin à Antibes, je m'imaginais que ce personnage venait me voir. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce long métrage qui est vraiment pour la famille et j'espère que tout le monde va se marrer. Et si tout va bien, il va sortir en octobre. Je suis très honoré qu'on aille à Annecy, même si c'est virtuel, parce que le festival d'Annecy m'a toujours accompagné. Et c'est un vrai boulot d'équipe et c'est vrai qu'on a très hâte que les salles de cinéma réouvrent et de voir des familles aller voir Petit Vampire, c'est la meilleure récompense qu'on puisse attendre.
6 ans, on imagine rarement, voire jamais, à quel point les films d'animation demandent de la précision, du temps, de l'obstination. Vous avez travaillé avec des studios français ou européens ? Comment vous avez procédé ?
C'est ma société, c'est la compagnie qui avait fait Le Chat du Rabbin, qui depuis s'est métamorphosée, qui s'appelle maintenant Magical Society. Et ce sont des animateurs français, pour beaucoup, que j'ai rencontrés quand ils étaient encore à l'école des Gobelins. Il y a un garçon qui s'appelle Adrien Gromel en particulier, qui est génial. Et comme on est très très différents, il m'aide à adapter mes personnages. On essaye vraiment de que la bande dessinée et le film offrent un plaisir différent. Donc on les a un peu réinventés. C'est super. Enfin, c'est super de travailler avec des gens qui me disent non, qui me disent non, moi je ferai autrement. Je suis ravi de pas parvenir à me faire respecter par mes équipes. Moi, j'aime bien travailler dans dans la contestation joyeuse.
L'épidémie qui touche tous les secteurs de la culture. Annecy, le Festival international du film d'animation, vous l'évoquiez, Johan Sfar, va donc proposer pour la première fois cette année une édition 100% numérique, 100% virtuelle, avec votre petit vampire, qui va concourir en sélection officielle aux côtés de deux films japonais, d'un long métrage chilien ou encore un autre mauricien, voire égyptien. Le monde se raconte aujourd'hui en images et on vous invite chaudement à vous rendre sur le site du Festival d'Annecy à partir du 15 juin pour suivre cette magnifique sélection. Vous êtes le président d'honneur de la Ligue des auteurs professionnels. Vous êtes aujourd'hui attaqué en diffamation, Johan Sfar, par la Société des gens de lettres, parce que sur France Inter, vous lui avez reproché de mal représenter les auteurs, de ne pas avoir redistribué suffisamment les aides d'État destinées aux auteurs. Vous avez déjà clarifié, vous êtes revenu sur cette affaire. Moi, je voudrais juste vous poser cette question, au-delà de la polémique, comment les artistes auteurs sont en train de traverser cette crise? On a entendu pour beaucoup très mal, mais essayez de nous expliquer juste en quoi il manque de filet de protection. Quels sont les airbags manquants qu'on pourrait leur apporter pour qu'ils continuent à pouvoir créer et travailler?
Oui, donc j'ai pas le droit de parler du drame actuel parce qu'on me fait un procès, mais tout de même, en un mot, c'est un peu commode de la part de la Société des gens de lettres de dire ils nous traitent de voleurs. Non, je leur reproche pas d'avoir détourné des fonds publics, je l'ai pas dit, je l'ai pas pensé. Je leur reproche de ne pas être capable de les redistribuer correctement, puisqu'on voit bien que cette redistribution fonctionne mal, tout simplement parce que c'était pas leur fonction. Et moi, je regrette que des sociétés se substituent aux affaires sociales, c'est-à-dire se substituent au rôle de l'État, et je regrette que ces sociétés se fassent passer pour des syndicats professionnels d'auteurs. La réalité, c'est que il y a quelques milliers de personnes en France, il paraît 100 000, qui vivent de leur création littéraire ou artistique. Ces gens-là n'ont pas le droit au traitement professionnel d'un vrai métier, c'est-à-dire avec un syndicat qu'ils élisent eux-mêmes, qui les représente, et avec un rapport simple à l'État. Moi, a priori, la Société des gens de lettres n'y est pour rien. C'est l'État qui est coupable quand il décide que la Société des gens de lettres est l'interlocuteur représentatif des auteurs. Ça fait des années qu'on devrait avoir des élections professionnelles et l'épidémie n'est que le dernier épisode de tous les drames que subissent les auteurs en France. Et c'est un vrai paradoxe parce que il n'y a pas de mauvaise volonté. Il y a des blocages. Moi, je regrette que mon intervention amène des disputes parce que c'est pas mon souhait. Et j'en veux pas à ces associations qui font très bien leur boulot par ailleurs. Je regrette qu'on n'ait pas de syndicats et je regrette que l'État s'adresse à nous encore de manière paternaliste. C'est-à-dire, tiens, on va aller voir la Société des gens de lettres qui représente les auteurs. Mais non, plutôt, on va créer une représentation professionnelle des auteurs. Et comme ça, quand il y aura un problème, on pourra en parler. Aujourd'hui, l'atmosphère est devenue irrespirable dans notre microcosme. Je suis sans doute un bien mauvais avocat parce que je m'emporte. Mais je constate qu'à chaque fois que je hurle à la radio, deux jours après, les pouvoirs publics nous appellent et commencent un petit peu à bouger. Donc je regrette de faire ce bordel parce que vraiment je préférerais dessiner. Et s'il y a un procès, c'est bien triste. Mais si ça sert à ce qu'on parle des auteurs, bon ben voilà.
Et vous avez reçu le soutien de nombreux auteurs d'ailleurs qui demandent à ce que leur statut soit revu, clarifié et que l'État plus directement puisse les soutenir dans une période qui est extrêmement difficile. Merci beaucoup à vous, Johan Sfar. Le dernier Juif d'Europe, c'est chez Albin Michel. La BD Le Niçois Fashion Week, c'est chez Dargaud. Petit Vampire, c'est tout bientôt au cinéma. On va se quitter avec la voix d'un grand artiste plasticien qui nous a quittés ce week-end à l'âge de 84 ans à New York. En duo avec Jeanne-Claude, le plasticien d'origine bulgare avait emballé le Pont Neuf à Paris, rêvé depuis des années de draper l'Arc de Triomphe. Il avait supervisé à distance l'exposition que le Centre Pompidou lui consacre et qui, à peine montée, fut confinée. Cette rétrospective sur la dimension parisienne de l'œuvre de ce couple d'artistes s'ouvrira finalement début juillet. Christo, bonheur.
Notre projet parle de joie et de beauté. Il est totalement inutile, absolument. Personne n'en a besoin à part moi, mon épouse, Jeanne-Claude, et quelques amis. C'est la raison pour laquelle les gens ont cette liberté inexplicable, irrationnelle, qui existe parce que le projet est ce qu'il est. Ce n'est pas la propagande, il n'y a pas de message, pas du tout, c'est seulement un sentiment. Regardez-le, ressentez-le, marchez dessus, ouvrez tous vos sens.
Voilà, c'était la voix de Christo commentant l'une de ses œuvres à marcher sur l'eau, sur le lac d'Iseo en Italie en 2016. Merci beaucoup Johan Sfar d'avoir été avec nous et merci à toute l'équipe de La Grande Table. Dans un instant, l'édition Interchaîne avec Bruno Duvic, avant le grand retour ce mercredi du journal de midi et demi de France Culture présenté par Thomas Cluzel et dans son prolongement de votre Grande Table des idées.